RFI. Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le poids de la Chine en Asie ne cesse de croître. L'homme fort de Pékin rêve de faire de son pays la première puissance mondiale et a mis au service de cette ambition son projet de nouvelle route de la soie, maritime et terrestre. Comment la Chine, pays communiste, est-elle devenue la grande gagnante de la mondialisation qui, pour contrer la volonté d'hégémonie économique, politique et militaire de Pékin en Asie, l'influence américaine y est-elle déjà battue en brèche? China first contre America first. Donald Trump peut-il vraiment se lancer dans une guerre commerciale totale avec la Chine alors que les États-Unis ont besoin de Pékin pour régler la crise nucléaire avec la Corée du Nord? Va-t-on vers une nouvelle guerre froide? On en débat avec nos invités. Françoise Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, où vous dirigez le Centre Asie, et vous êtes enseignante à Sciences Po au Havre. Antoine Bondaz, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine et des deux Corées, et vous enseignez à Sciences Po. Et Serge Sure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue bimestrielle Questions internationales, dont Géopolitique est partenaire, revue qui consacre son dernier numéro à la Chine au cœur de la Nouvelle-Asie. Et vous êtes professeur émérite à l'université Panthéon-Assas. Je précise que cette émission a été enregistrée juste avant le sommet du G20 qui s'achève ce samedi à Buenos Aires. Serge Sure, est-ce que le centre du monde s'est déplacé en Asie grâce à ce que vous appelez la résurrection de la Chine ?
Alors, le centre du monde, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, le centre de l'Asie est clairement en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine, après avoir conquis l'hégémonie, parce que je crois qu'on peut dire qu'elle exerce une hégémonie en Asie, considère qu'il s'agit d'une étape. Et ça, c'est particulièrement la politique de Monsieur Xi. Il a maintenant une ambition mondiale. Il veut devenir une puissance globale. Alors que, pendant les décennies précédentes, la Chine avait clairement modéré ses ambitions. Elle apparaissait comme voulant être une puissance régionale, et la montée en puissance pacifique impliquait qu'on ne cherche pas de confrontation. Et maintenant, nous avons une position qui est tout de même assez différente, où on voit bien que la confrontation n'est pas exclue. Je ne parle pas de la confrontation armée, mais la confrontation diplomatique, économique. Et donc, on pourrait dire qu'il y a un seuil qui a été franchi par la nouvelle politique de Monsieur Xi.
Antoine Bondaz, vous êtes d'accord ?
Oui, et on le voit très clairement dans la dernière réunion de travail sur la politique étrangère organisée par le Parti communiste en juin dernier. Et dans celle-ci, le secrétaire général Xi Jinping n'a pas appelé à la non-interférence, n'a pas appelé au non-alignement, mais a appelé pour la première fois officiellement la Chine à mener la réforme de la gouvernance mondiale. Et donc la Chine a des ambitions désormais clairement affichées. Un des horizons était notamment 2049, le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, dans lequel la Chine doit être une puissance de premier plan, ce qui veut dire indirectement que la Chine doit être le numéro un à l'horizon 2049.
Françoise Nicolas, est-ce que le projet de nouvelle route de la soie, donc lancé en 2013 par le président chinois et qui associe 70 pays entre l'Asie et l'Europe, va faire émerger un nouveau monde, entre guillemets?
Alors tout d'abord, je voudrais simplement abonder dans le sens de mes camarades sur le changement de posture de la Chine et le seuil qui a été franchi. Et je pense que ce seuil a été franchi grâce au poids économique et au pouvoir économique que la Chine a acquis au cours des ans. En réalité, jusque-là, elle se tenait à peu près tranquille, elle se tenait un peu en retrait, parce qu'elle n'avait pas encore les moyens de ses ambitions. Et désormais, comme elle a acquis un poids économique incontestable, elle a les moyens de ses ambitions, et c'est pour ça qu'elle est passée à la vitesse supérieure. Alors, une manière de passer à cette vitesse supérieure, ça a précisément été de lancer ce grand projet des nouvelles routes de la soie. Alors, je m'inscrirai en faux contre ce que vous dites, il y a plus de 70 pays dans l'histoire. Bon, on peut se bagarrer un peu pour savoir exactement quel est le nombre de pays qui sont concernés, mais initialement, la liste était de 65, et il y avait, semble-t-il, une liste officielle que je n'ai personnellement jamais vue, mais il y avait apparemment une liste officielle de 65 pays. Et désormais, même le président Xi lui-même reconnaît qu'on est à plus de 100 pays et institutions internationales qui participent à ce projet. Donc c'est un projet qui a cru en couverture géographique, mais également en couverture sectorielle, on pourrait y revenir si vous le voulez. Mais ce projet s'inscrit effectivement dans la logique d'une prise de pouvoir de la Chine et d'une volonté de la Chine de jouer un rôle actif en matière de gouvernance mondiale.
Serge Sure.
À propos de la route de la soie, je voudrais faire deux observations. La première observation, c'est qu'en réalité, il y en a deux. Il y en a une qui est terrestre et l'autre qui est maritime. Et la Chine, Au fond, il est plus facile de développer la maritime que la terrestre, parce que la terrestre comporte toute une série d'obstacles qui sont non seulement physiques, géographiques, mais aussi politiques, puisqu'il s'agit de traverser le territoire d'un très grand nombre d'États. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, c'est que c'est un projet à long terme et dont l'impact est, à mon avis, pour l'instant, beaucoup plus diplomatique que concret. Il s'agit d'un effet d'annonce. Et à certains égards, ça me rappelle l'IDS du président Reagan en 83, où il avait annoncé sur un tout autre plan que les États-Unis allaient construire un bouclier antimissile. Ça n'a jamais été construit, mais il y a eu un impact formidable sur les questions stratégiques. Et la route de la soie a un petit peu le même type d'effet, c'est-à-dire que tout le monde est amené à se positionner par rapport à cela, avant même qu'il y ait la moindre réalisation concrète, en tout cas sur le plan terrestre.
Françoise Nicolas.
Oui, cela étant, je suis assez d'accord avec Serge Dussure. C'est un projet à très très long terme et on voit pas encore grand chose sur le terrain pour l'instant. Mais je pense que ça serait une erreur de penser que ces routes de la soie, ce ne sont que les routes. Que ce serait uniquement des infrastructures dures.
C'est-à-dire des ports,
routes,
des liaisons ferroviaires.
Des chemins de fer, que sais-je. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup autre chose.
On parle aussi de nouvelles technologies.
Et précisément, on parle de nouvelles technologies et on parle aussi beaucoup d'infrastructures plus soft et de normes, de standards, enfin pas mal de choses qui vont avec les routes en dur, si vous voulez. Et je pense qu'en réalité, c'est là l'essentiel. Et c'est pas du tout dans les infrastructures lourdes que ça se passe.
Mais est-ce que le poids de la dette ne risque pas d'être un obstacle dans ce projet, puisque donc les projets fleurissent, les pays s'endettent, et est-ce qu'ils ne risquent pas, les pays africains par exemple, qui doivent aujourd'hui déjà 130 milliards de dollars à la Chine, est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver écrasés par le fardeau de la dette ?
C'est une question qui se pose effectivement, il n'y a pas que les pays africains qui sont endettés jusque par-dessus les oreilles.
Oui, il y a aussi plusieurs pays asiatiques.
C'est la même chose en Asie du Sud, avec le Sri Lanka, avec les Maldives, c'est la même chose en Asie du Sud-Est, avec le Laos par exemple. Donc effectivement, on est arrivé à un stade où il commence à y avoir pas mal de problèmes autour de ces routes de la soie et du coup se développe aussi un certain nombre de réticences, de résistances à l'égard de ces routes de la soie. Moi, à mon avis, on est peut-être arrivé un petit peu à un tournant dans le projet aujourd'hui et ça va être un peu l'instant de vérité. Est-ce que la Chine poursuit ou est-ce qu'elle est prête un petit peu à amender son projet ? Mais je suis personnellement assez sceptique parce que amender le projet, ça voudrait vraisemblablement dire en changer la nature. Et là, je ne suis pas du tout sûr que la Chine soit prête à ça.
Antoine Bondaz.
Et cette question de la dette est assez emblématique. C'est vraiment la question comment la Chine peut transformer son pouvoir économique en influence politique. Alors on le voit évidemment dans sa périphérie, mais on le voit beaucoup plus loin en Europe. Alors le Monténégro s'est extrêmement endetté pour construire une autoroute que les organisations internationales et l'Union européenne ne souhaitaient pas financer, puisqu'elles considéraient que le programme était financièrement non viable, non soutenable. Là, la Chine est intervenue, a prêté de l'argent, et la question est encore une fois comment la Chine peut transformer ce pouvoir économique en influence politique. Et on le voit très près de nous, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux Maldives. En Europe, la Chine, à travers ce qu'on appelle le 16+1, donc ce forum annuel qui rassemble des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, avec la Chine. On le voit à travers les investissements chinois, que ce soit par exemple en République tchèque, que ce soit dans la construction d'infrastructures ou dans l'investissement dans des infrastructures, par exemple en Italie. Et la Chine désormais essaye de peser politiquement, encore une fois, à travers cet outil économique.
Alors je parlais tout à l'heure...
Précisément, c'est une manière pour la Chine de rendre les pays débiteurs tributaires de sa puissance. Et c'est un instrument, c'est un obstacle, mais c'est aussi un instrument, puisqu'on voit bien qu'en échange, par exemple au Sri Lanka, la Chine obtient un port, et que ce port pourra, à un moment donné, devenir militaire. Et donc c'est tout de même aussi une technique d'influence politique, d'ores et déjà.
Oui, cela étant, la question qui se pose malgré tout, c'est de savoir si la Chine a les moyens de poursuivre comme ça. Parce que, elle a certes les poches très profondes, mais les poches ont quand même un fond. Et donc, je ne suis pas sûr qu'elle puisse continuer comme ça à inonder l'ensemble du monde, en endettant l'ensemble du monde. Et quid lorsque il n'y a plus moyen de rembourser et qu'il n'y a pas moyen de faire main basse sur des actifs. Parce qu'au Sri Lanka, effectivement, c'est ce qui a été fait. On fait main basse sur un port. Alors, les Sri Lankais eux-mêmes disent non, c'est pas vrai. Il n'y a pas vraiment de cession de souveraineté. C'est juste pour 99 ans. D'accord. 99 ans, c'est long. Donc, je veux bien qu'on discute un peu sur les termes. Le fait est qu'il y a quand même un transfert de souveraineté de fait. Mais c'est pas toujours possible. Donc, malgré tout, moi, je persiste et signe. Je pense qu'il va y avoir quand même la nécessité de changer un petit peu la manière.
Je prends un autre exemple. La Sierra Leone a abandonné fin octobre un projet aéroportuaire de 318 millions de dollars que la Chine devait financer à Freetown. Et le pays redoutait aussi de tomber dans le piège de la dette. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet domino en Afrique ?
En Afrique, je ne sais pas. Moi, je suis plus spécialiste de l'Asie du Sud-Est que de l'Afrique. C'est pour ça que je prends mes exemples plutôt dans cette région du monde. Mais si on regardait ce qui s'est passé avec la Malaisie, elle aussi s'est montrée très mécontente de la manière dont certains projets avaient été gérés par le Premier ministre qui vient de se faire sortir, par Najib. Et le nouveau Premier ministre, qui n'est pas très nouveau parce qu'il a 93 ans, pas nouveau en politique, mais il est nouveau sur la scène politique malaisienne. Et lui a voulu rediscuter les conditions, rediscuter les termes des projets avec les Chinois, parce qu'il estimait que ces conditions étaient absolument inacceptables. Et elles avaient été acceptées par le passé parce que le Premier ministre précédent avait besoin de l'appui des Chinois pour mener certains projets, parce qu'il était en difficulté politique en interne. C'est comme ça qu'il avait réussi à avoir malgré tout un appui à se maintenir. Mais voilà, il y a une remise en question, et là, je pense que la Chine ne peut pas se permettre de laisser faire en Malaisie ce qui s'est passé au Sri Lanka. La Malaisie, c'est quand même un autre partenaire d'une taille sensiblement différente, et la Chine ne peut pas se permettre d'avoir un pataquès en quelque sorte avec la Malaisie. La Malaisie le sait, enfin Mahathir en tout cas le sait, et il en joue, et je crois qu'il en joue assez bien.
Et il y a véritablement un triple effet où on a effectivement les capacités d'investissement chinoises qui sont limitées. On a une réticence croissante de certains pays qui reçoivent ces investissements. Et puis, il y a un troisième élément qui est tout aussi important, c'est qu'on a désormais des alternatives. Les États-Unis annoncent qu'ils veulent réinvestir dans les infrastructures et autres en Asie du Sud-Est. Le Japon, l'Australie, généralement d'ailleurs les pays coordonnants. Peut-être demain l'Union européenne à travers sa stratégie de connectivité eurasiatique. Et donc, on a pour ces pays-là l'opportunité de ne pas être obligé d'aller vers la Chine désormais, et d'avoir des alternatives. Et ça, ça change beaucoup également la donne pour l'influence potentielle de la Chine.
Oui, ça c'est très juste, et je pense que l'alternative japonaise est particulièrement intéressante, parce que le Japon, lui, met l'accent sur la mauvaise qualité des infrastructures fournies par la Chine. Mmh. Et donc, du coup, il a un projet qui est le partenariat pour les infrastructures de qualité. Bon, c'est vraiment une critique à demi voilée de la Chine. Et du coup, là, il a quelque chose de très positif à faire valoir auprès des pays. Et en plus, il met des moyens, ce Japon, qui sont absolument pas négligeables. Il y a un petit peu plus que ce qui est mis dans la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, par exemple. Bon, évidemment, c'est incomparable par rapport à la force de frappe financière de la CDB, la China Development Bank, ou de l'Exim Bank chinoise. Certes, mais malgré tout, il y a une volonté, là, effectivement, de proposer une alternative, et une alternative vraiment valable.
Serge Sûr ?
Oui, un des avantages tout de même que détient la Chine, c'est que elle livre des fonds sans condition, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Elle ne se préoccupe pas des droits de l'homme, elle ne se préoccupe pas de la bonne gouvernance, et donc elle investit. Et bien évidemment, alors, par rapport aux États-Unis, je ne sais pas, mais par rapport à l'Union européenne, ça lui donne évidemment un avantage. Et je crois qu'il faut ajouter aux routes de la soie cette technique qui consiste aussi à proposer des villes clés en main, en quelque sorte. Vous savez que auprès du Caire, il est question de construire une nouvelle ville qui sera financée par les Chinois et qui aura une logique entièrement chinoise. Alors ça peut équilibrer un petit peu le projet d'Arabie Saoudite de construire également une ville connectée. Et ça, ça se situe sur le plan de la technologie. Et à côté des infrastructures, il y a la compétition technologique, et là, la Chine se heurte directement aux États-Unis, parce que un des éléments de la suprématie américaine, c'est tout de même leur avance dans le domaine de la technologie. Et cette avance est de plus en plus contestée, en tout cas le projet chinois, est de devancer les États-Unis en termes de technologie, avec tous les aspects que ça comporte.
Alors, à propos des États-Unis, justement, les relations sont depuis quelques mois devenues très tendu entre Washington et Pékin. Antoine Bondaz, est-ce que c'est uniquement la montée en puissance économique de la Chine qui a poussé Donald Trump à surtaxer quelques 200 milliards de dollars d'importations chinoises, ou est-ce qu'il faut voir aussi dans la décision américaine des raisons géopolitiques ?
Je crois qu'il y a de nombreuses raisons. Il y a premièrement une raison de politique intérieure. Au cours de la campagne présidentielle de 2016, Trump a présenté la Chine comme la menace principale pour l'économie américaine et la responsable notamment de la destruction d'emplois, etc. Et donc il y avait une importance et une priorité politique pour Trump de vraiment cibler la Chine. Mais après, évidemment, sur le plan géopolitique, la Chine est un concurrent extrêmement sérieux. Dès 2001, George Bush avait présenté la Chine comme le compétiteur stratégique. Malheureusement, les attentats dans les Twin Towers avaient réorienté la politique étrangère des États-Unis pendant quelques années. Mais les élites américaines, et d'ailleurs c'est l'un des rares consensus, que ce soit les républicains et les démocrates, sont d'accord pour considérer la Chine comme une menace à long terme. Et la question des technologies, peut-être même au-delà de la question purement commerciale, est extrêmement importante. Un des grands enjeux notamment, pour prendre un cas très concret, c'est la question de la 5G, qui demain sera en mesure d'imposer les standards internationaux en termes de 5G. Les Américains, évidemment, considèrent que c'est à eux de fixer ces standards. La Chine est entrée en compétition. Puis sur la question de ces technologies, il y a un double effet dans les pays occidentaux. Premièrement, un contrôle plus accru des investissements chinois dans ces pays-là. On a en Europe désormais qui vient d'être adopté. Alors il n'est pas parfait, mais en tout cas c'est une première étape, un système de contrôle des investissements étrangers et une meilleure coordination européenne. Et puis un cas un peu plus extrême, on a l'interdiction pour des entreprises chinoises d'accéder à certains marchés. C'est le cas de Huawei, donc ce géant des télécommunications, par exemple aux États-Unis désormais, dans certains marchés officiels, mais aussi en Australie, également en Nouvelle-Zélande, où le fournisseur d'accès principal en Nouvelle-Zélande vient d'être interdit d'utiliser des infrastructures de Huawei.
Serge Sûr.
Oui, à propos de le 5G, il semble bien que les États-Unis éprouvent pas mal de difficultés, notamment en ce qui concerne la quantité et la qualité des ingénieurs, des spécialistes, des experts qui sont nécessaires pour mettre cela au point. Alors que les Chinois, semble-t-il, pourraient avoir une avance dans ce domaine. C'est une des raisons de l'inquiétude américaine.
Nicolas.
Oui, je pense qu'effectivement, au cœur de la guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est vraiment la question de la technologie qui est en cause. Et ce que Trump cible, c'est la stratégie Made in China 2025. La Chine, là, affiche des objectifs extrêmement clairs en matière d'avancée technologique. Elle veut dominer un certain nombre de secteurs qui sont identifiés. Elle veut avoir 40%, je crois, de la production des puces pour les téléphones portables et autres. Donc là, elle a affiché des objectifs très très clairs, chiffrés. Et les États-Unis n'en veulent pas.
Mais ça veut dire que la Chine a une vision à moyen terme, parce que 2025, c'est pas très loin, que les États-Unis n'ont pas.
Les États-Unis, en tout cas, voient que là, ils ont un vrai concurrent direct et qui s'affiche comme tel. Et ça, c'est quand même très, très nouveau.
Antoine Bandaz.
Et puis, une des différences, c'est que la Chine associe à la fois des mécanismes de marché à une centralisation extrêmement forte. On pourrait rentrer dans les détails, mais à travers notamment ce qu'on appelle l'intégration civilo-militaire, l'idée est de fusionner les bases industrielles et technologiques de défense et civile. De faire en sorte que les grands conglomérats de défense chinois coopèrent beaucoup plus avec les entreprises privées, que les universités liées au domaine de la défense coopèrent avec des centres civils. Et l'idée, encore une fois, c'est d'accélérer l'innovation et que la Chine ne soit plus simplement dans une logique de rattrapage technologique, mais qu'elle devienne un pays innovant. Et là, encore une fois, il y a des étapes qui sont très clairement affichées. 2020, 2035, 2050. Et encore une fois, 2050, la Chine étant, en tout cas c'est nos objectifs, la première puissance technologique mondiale.
Serge Sûr.
Oui, un des avantages du système chinois par rapport aux démocraties occidentales, c'est que précisément ils peuvent faire une planification à long terme, parce qu'ils ne sont pas liés à des élections. Les élections régulières, tous les 4 ou tous les 5 ans, obligent à raisonner dans un cadre beaucoup plus limité. Ce qui n'empêche pas les États-Unis, dans certaines circonstances, d'avoir eu des programmes à long terme. Pensez au programme Apollo, qui a été suivi par toutes les administrations. Donc les États-Unis ne sont pas hors d'état de lancer des programmes à long terme, mais il est bien clair que la périodicité des élections constitue un obstacle que le système politique chinois permet d'éviter. Et c'est un des éléments de la montée en puissance de la Chine que la stabilité de son régime politique. Voilà un pays qui monte en puissance depuis 40 ans et c'est très rare, il n'y a pas beaucoup de précédents dans l'histoire, d'un pays qui a connu une montée en puissance pacifique et continue pendant si longtemps.
Françoise Nicolas.
Oui, c'est l'avantage d'un régime autoritaire. On arrête des objectifs, on a les moyens de mettre ces objectifs en œuvre et on ne dévie pas du cap qui est affiché. Donc c'est effectivement beaucoup plus simple que dans les démocraties où il y a des grincements de dents et donc des retards ou des ralentissements dans le processus.
Donc ça, la Chine gagne sur tous les tableaux.
C'est un gros avantage du système. Pour l'instant, oui, mais à mon avis, c'est quand même pas dénué de risques pour elle et il peut y avoir quand même des hoquets.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la montée en puissance de la Chine en Asie et des bouleversements qu'elle engendre sur l'échiquier géopolitique mondial.
La Radio du Monde. Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique consacrée aujourd'hui à la montée en puissance de la Chine. Jusqu'où ira la tentation hégémonique de Pékin en Asie? La Chine réussira-t-elle à balayer l'influence américaine sur le continent? Faut-il redouter une nouvelle guerre froide? On continue d'en débattre avec les chercheurs Françoise Nicolas et Antoine Bondaz et Serge Sur, rédacteur en chef de Questions internationales, qui consacre son dernier numéro à la Chine au cœur de la Nouvelle-Asie. Serge Sur, la Chine réclame à l'international sa reconnaissance comme économie de marché, alors qu'en interne, elle garde comme modèle officiel une économie de marché socialiste. Du coup, est-ce que les États-Unis ont raison quand ils accusent la Chine de tricher ?
Oh, que la Chine triche, oui. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. Elle triche sur tous les plans. Elle triche par le dumping social extraordinaire qui lui a permis son ascension économique. Elle triche par la captation des technologies à laquelle elle a procédé au cours des décennies antérieures. Maintenant, elle peut certainement être autonome. Elle en a beaucoup moins besoin qu'auparavant. La Chine s'est accommodée, s'est arrangée pour avoir des pratiques qui servent ses intérêts. Mais enfin, ce n'est pas le seul État qui fasse cela. Peut-être bien ce qu'elle l'a fait d'une façon plus systématique et organisée, mais d'autres l'ont fait également. Et notamment l'URSS le faisait en son temps. Simplement, pour ce qui est de la stabilité du système politique, qui est un élément très important de la puissance chinoise, il faut dire que les attentes, peut-être les espérances, en tout cas les anticipations des pays occidentaux ont été démenties. Parce qu'on considérait que le progrès économique, le développement de la Chine, la création d'une classe moyenne qui est aujourd'hui très abondante, allait entraîner d'une façon quasiment mécanique une démocratisation des institutions. On considérait que la liberté individuelle finalement les couronner l'ensemble, que la population chinoise pouvait accepter un certain nombre de contraintes qui étaient liées au développement, mais qu'à partir du moment où la prospérité arrivait, eh bien, la demande de liberté, la demande d'autonomie serait beaucoup plus forte. Ce n'est pas le cas. Au fond, il y a une sorte de pacte implicite entre la population chinoise et les dirigeants. Ce pacte implicite, c'est favoriser notre développement et nous vous suivrons. Et surtout, pour les catégories les plus pauvres, promettez à nos enfants qu'ils auront un sort meilleur que le nôtre. On accepte au fond des conditions de vie qui restent très très pénibles, notamment dans les campagnes, à condition que la génération suivante puisse en bénéficier. Et ça, c'est une sorte de pacte implicite. Et il y a une réflexion très significative qui était faite par une paysanne qui disait « Les dirigeants ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux ». En revanche, elle fait tous ses efforts pour que ses enfants puissent aller à l'université, dans une bonne université. J'ajoute que on a un système oligarchique, mais il y a une sélection des dirigeants qui est faite d'une façon assez attentive et qui, pour l'instant, n'a pas connu d'échec majeur. C'est-à-dire que le système est celui de la méritocratie. Et l'idée chinoise, c'est d'opposer à la démocratie la méritocratie. Il y a des parcours politiques qui sont accomplis. On commence par des fonctions locales, puis des fonctions régionales, puis on arrive au sommet. Évidemment, ça suppose de la loyauté à l'égard du pouvoir. Mais en principe, on a une équipe de gens qui sont compétents et dociles.
Françoise Nicolas.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Serge au début, à savoir qu'on a commis une grossière erreur en pensant que il y aurait automatiquement démocratisation grâce à la prospérité économique. Et je pense que là, on a péché par manque d'imagination. On manque d'imagination parce qu'on croit toujours que ce qui s'est passé chez nous va se passer ailleurs. Et donc, nécessairement, cette démocratisation allait advenir simplement parce que la Chine allait s'enrichir. Et ça, c'était vraiment une très grossière erreur, en réalité. Certains disaient, il y a quelques années, mais on ne sait pas, il peut peut-être y avoir un système différent qu'on n'a jamais vu. Eh bien oui, le système, il est différent, on l'avait jamais vu, et il existe en Chine. Alors, ce qui m'amène à un point qui est assez intéressant et important sur la manière dont les Chinois, en tout cas les dirigeants chinois, voient les droits de l'homme. Parce qu'ils nous coincent là-dessus, en nous disant, oui, vous revendiquez toujours des droits de l'homme, mais regardez, vous avez des sans-domicile fixe, vous avez des gens qui vivent vraiment très mal dans vos démocraties. À quoi ça sert d'avoir de la démocratie si vous avez des gens qui n'ont pas accès à un niveau de vie décent? Et eux, les droits de l'homme à caractéristiques chinoises, c'est des droits sociaux avant tout. Et les droits sociaux, c'est vivre à peu près correctement. Donc ça revient exactement à ce que disait Serge. Ce qui est prioritaire, c'est d'avoir des perspectives de vie à peu près décentes. Et ça, c'est un droit qui est, à leurs yeux, fondamental. Avant la démocratie, la liberté de parole, ou que sais-je. Et c'est là-dessus qu'ils nous reprennent. Et on est un petit peu emprunté. Lorsqu'ils mettent ça en avant, ça fait un petit peu mal, malgré tout.
Antoine Mandaz.
Je suis tout à fait d'accord avec Françoise Nicolas et on n'a pas du tout une libéralisation politique en Chine. En fait, on a l'inverse qui est en train de se produire, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping fin 2012. On a des réseaux sociaux qui sont encore plus contrôlés qu'auparavant. On a les nouvelles technologies qui sont utilisées pour contrôler la population. Et ça, c'est une hypothèse qui était erronée il y a quelques années quand on pensait qu'Internet allait forcément libéraliser politiquement. En fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. On a la situation dans le Xinjiang où des centaines de milliers de Chinois d'ethnies minoritaires, que ce soit les Ouïghours ou des Kazakhs, sont dans des camps de rééducation. On en parle assez peu à l'étranger. Alors, il y a eu quelques-unes, évidemment. Voilà, il y a quelques-unes. Il y a eu la révision périodique universelle des droits de l'homme à Genève il y a quelques semaines qui évoquait aussi cette question-là. Et là, c'est en réalité des sources de fragilité pour la Chine, peut-être sur le plus long terme, en termes de système politique, en termes potentiellement d'une opposition en interne à cette toute-puissance de Xi Jinping. Et un des défis de Xi Jinping, ce sera de maintenir son autorité au sein du parti. Et ça, ce n'était pas forcément garanti. Pour l'instant, ça marche, mais ce n'est pas forcément garanti.
François Nicolas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise beaucoup la technologie pour ça. Et là, on a quand même un développement absolument phénoménal des technologies au service de la sécurité du parti et du maintien au pouvoir du parti. Tout le système de crédit social, c'est quand même ça. Tout le système de reconnaissance faciale pour un meilleur contrôle de la population, c'est ça aussi.
Donc le crédit social, donc si on est bien noté,
voilà,
on est
bien noté, il faut bien être en ligne avec le parti. Auquel cas, on aurait une bonne note et on n'aura pas d'ennui. Et si on dérive un peu trop, là, on risque d'avoir des problèmes. La reconnaissance faciale, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on sait à tout instant qui fait quoi où. Et du coup, on contrôle extrêmement bien la population. Donc là, il y a une convergence entre les intérêts du parti et le développement de la technologie, et qui ne va pas nécessairement dans le sens que l'on aurait pu espérer non plus.
Je voudrais revenir à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu des passes d'armes très vives lors du sommet de l'APEC en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mois de novembre, le 18 novembre. Passes d'armes entre le vice-président américain Mike Pence et le président chinois. Mike Pence qui avait déjà dénoncé début octobre les pratiques prédatrice de Pékin a lancé de nouvelles piques auxquelles le président chinois a répondu en disant « Les investissements chinois à l'étranger ne sont pas un prétendu piège. L'histoire a montré qu'une confrontation, que ce soit sous la forme d'une guerre froide, d'une guerre chaude ou d'une guerre commerciale, ne produira aucun vainqueur. » Est-ce que c'est une mise en garde, Serge Sûr, ou est-ce que c'est simplement de la rhétorique pour faire monter les enchères entre guillemets avant un éventuel accord avec les États-Unis?
Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir d'un instant sur les problèmes de surveillance, de contrôle et la stabilité du pouvoir chinois. S'il y a une contestation, s'il y a une opposition, elle sera interne au Parti communiste, elle ne sera pas externe. Et la question qui se pose pour un certain nombre de dirigeants, c'est de savoir si M. Xi n'a pas été trop vite en besogne, si au fond il n'a pas défini des défis qui sont trop grands pour la Chine encore aujourd'hui. Et on peut lui reprocher en quelque sorte un surdimensionnement. C'est la position d'un certain nombre d'opposants. Alors là-dessus, je crois qu'il est très bon, on ne lit pas assez François Julien, qui a beaucoup souligné la différence de perception, la différence de culture entre les Occidentaux et les Chinois. Et notamment son ouvrage « Traité de l'efficacité » montre très bien quelles sont les différences de stratégie entre les deux civilisations. On a affaire à une autre civilisation, il ne faut pas y transposer nos propres codes. Maintenant, pour ce qui est de la compétition commerciale, il est bien clair qu'elle existe. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est de voir que la Chine récupère en quelque sorte le terrain du multilatéralisme, qui a été abandonné par les États-Unis. Et la Chine se présente comme un parangon du multilatéralisme. Ceci étant, moi c'est une position personnelle, mais je ne dramatiserai pas la confrontation États-Unis-Chine sur le terrain commercial. Parce que ce sont des intérêts, et comme disait Montesquieu, les intérêts ont toujours tendance à composer, à chercher des compromis. Et on connaît bien la technique de négociation du président Trump. C'est de lancer des défis, c'est d'avoir le verbe très haut, et puis ensuite de se prêter à une négociation. Il veut arriver en position de force dans une négociation. Regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. En définitive, on a eu un accord qui n'est pas favorable aux États-Unis. Et donc, il se passera peut-être la même chose avec la Chine. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout à une confrontation durable sur le plan commercial entre les États-Unis et la Chine.
Antoine Bondaz, vous êtes d'accord?
Oui, et sur l'ensemble de ces points, du point de vue chinois, ce qui est extrêmement marquant ces dernières semaines, c'est, comme vous l'avez mentionné, le discours du vice-président Mike Pence au Hudson Institute. Car en réalité, c'est la première fois aux États-Unis qu'un vice-président fait un discours complet sur la Chine, qui aborde à la fois les questions économiques, militaires, de société, de gouvernance globale, etc. Et du point de vue des Chinois, il y a cette petite rengaine et cette idée qui émerge maintenant qu'en réalité, tout ce que fait Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir est une stratégie calculée. Que les questions commerciales ne sont qu'un des éléments de la confrontation et de la compétition entre les États-Unis et la Chine, et qu'il va être peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils attendaient lorsqu'il a été élu, en termes de relations avec les États-Unis. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec le professeur sur la question vraiment sur l'impact de communication, plus que sur les négociations politiques pures. Sur le cas de la Corée du Nord, qui avait été abordé, Trump a fait de la communication à destination de son opinion publique et de sa base électorale. Il n'a en aucun cas résolu le problème nucléaire nord-coréen. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que les capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord continuent de s'accroître. La Corée du Nord continue d'enrichir de la matière fissile, elle continue de produire des bombes, elle continue de fabriquer des missiles, elle continue de faire de la recherche. Pour l'instant, il n'y a aucune solution. On a sur l'aspect de communication un régime nord-coréen qui est brillant, faut le dire, en termes de communication internationale, qui sait que les opinions occidentaux et que le président Trump avaient besoin d'une baisse des tensions et d'une victoire symbolique. La victoire symbolique, elle est que la rhétorique a changé. Et elle est que depuis un an, il n'y a pas eu d'essai balistique de la Corée du Nord. Ce qui donne l'impression qu'il n'y a quasiment plus de problème. Mais la réalité, encore une fois, c'est que les capacités continuent de s'accroître et qu'il n'y a, à court et moyen terme, pas vraiment de scénario dans lequel les États-Unis vont parvenir à un gel du programme nucléaire et balistique nord-coréen.
Et quel rôle a joué Pékin dans l'accord signé le 12 juin dernier à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un ?
Si vous voulez, vous avez deux hypothèses de recherche principales. La première étant de dire, mais la Chine a été mise de côté, les États-Unis sont revenus dans le jeu, etc. Et la deuxième, que je pense est la plus crédible, elle est que la Chine s'est retirée en termes de communication. Elle a laissé le président Trump y aller tout simplement parce que le président Trump avait un intérêt à se mettre en scène avec la Corée du Nord. Mais il faut rappeler que entre la Chine et la Corée du Nord, entre Xi Jinping et Kim Jong-un, vous avez eu trois sommets. Trois sommets en quelques mois. La Chine n'est pas du tout retirée du dossier coréen. Elle suit ce dossier extrêmement attentivement. Une de ses propositions phares ces dernières années était ce qu'on appelait le double gel, un gel des exercices militaires américains en échange d'un gel des essais nucléaires et balistiques nord-coréens. Elle l'a obtenu. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, et c'est le risque pour les États-Unis, c'est celui d'un découplage entre d'un côté la Corée du Sud et de l'autre côté son allié américain. Et ça, c'est dans l'intérêt de la Chine. C'est dans l'intérêt de la Chine que les alliés américains dans la région remettent en question les garanties de sécurité américaines. C'est dans l'intérêt de la Chine que on montre des dissensions entre Séoul et Washington. Et c'est justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des relations intercoréennes qui s'améliorent, mais une crise nucléaire qui, de fait, en réalité, est loin d'être résolu et n'avance que extrêmement lentement.
Alors justement,
peut-être un dernier petit point là-dessus. Moi, je pense que Kim Jong-un a effectivement gagné sur tous les tableaux dans cette histoire, parce que désormais, effectivement, il peut continuer à améliorer ses technologies sans que personne n'y trouve rien à redire quelque part. Et puis surtout, il apparaît comme un interlocuteur tout à fait honorable. Tout le monde lui parle désormais. Et on oublie pas mal de choses qui n'ont absolument pas changé dans le système nord-coréen et qui, par le passé, nous empêchaient de lui adresser la parole. Et désormais, c'est plus le cas. Voilà, il est devenu normal. Il y a une normalisation de sa personne. Et ça, je pense que c'est un gain absolument fantastique pour lui.
Serge Sûr.
Oui, ben, il est bien clair que le but de la Corée du Nord depuis très longtemps était d'obtenir un tête-à-tête avec les États-Unis. Le simple fait qu'il y ait une rencontre bilatérale, c'est un énorme succès diplomatique pour la Corée du Nord. Succès diplomatique que Trump a donné en quelque sorte à la Corée du Nord. Et j'ajouterais que, à mon sens, la question coréenne est avant tout un problème chinois. Les Chinois sont relativement discrets sur la question, mais c'est eux qui sont les premiers concernés. C'est eux pour lesquels l'impact serait le plus grand si, par hasard, la Corée du Nord devait s'effondrer ou devait vraiment devenir un régime menaçant. Et la troisième observation, c'est que cette crise ne sera résolue, ou cette tension qui dure depuis maintenant près de 70 ans, c'est la conclusion d'un traité de paix. Il faudrait aboutir à ce qu'il y ait un traité de paix entre les deux Corées qui permette...
Mais les États-Unis s'y opposent.
Il s'y oppose, et à mon avis, c'est une erreur diplomatique de s'y opposer.
Antoine Bondaz.
Et je pense qu'il faut bien comprendre la stratégie nord-coréenne. J'étais encore à Pyongyang il y a quelques semaines. Ce qu'ils expliquent, et ils sont extrêmement clairs là-dessus, c'est que le développement des capacités nucléaires a permis de débloquer la situation pour eux, de façon paradoxale. Puisque du côté occidental, on se dit « non mais c'est l'inverse, plus vous développez, plus ce sera difficile ». Or, ce que disent les Nord-Coréens, c'est « nous avons développé nos capacités, nous avons réussi à stabiliser la péninsule, notamment à travers ce réengagement diplomatique, cette offensive de charme diplomatique, et donc désormais, nous pouvons nous concentrer sur l'économie ». Et c'est pour ça que l'idée de dire « mais tant que vous avez les armes nucléaires, vous ne pouvez pas vous développer », le raisonnement nord-coréen, il est différent. Et ce qui se passe en ce moment, de fait, justifie et en tout cas donne de l'intérêt à la stratégie que les Nord-Coréens ont mise en œuvre et le développement potentiel de la coopération économique avec la Corée du Sud, si les sanctions internationales sont en partie levées, c'est quand même un si extrêmement important et un tabou, fait que pour l'instant, la Corée du Nord a, comme le disait Françoise Nicolas, gagné sur tous les tableaux.
Et alors comment vous expliquez-vous cette erreur diplomatique américaine dont parlait Serge Sure à l'instant? Pourquoi est-ce que les États-Unis rejettent ce projet qui est poussé par les deux Corées et appuyé par Pékin en faveur d'un traité de paix intercoréen?
Alors la question à très court terme, c'est pas forcément le traité de paix, mais c'est au moins une déclaration d'intention, une déclaration de paix en quelque sorte. Le risque pour les États-Unis, c'est d'envoyer un mauvais signal à la communauté internationale. L'idée étant, nous n'avançons pas sur la question nucléaire et pourtant, nous faisons une déclaration de paix. Le deuxième risque est que s'il y a une déclaration de paix entre les deux Corées, mais plus généralement entre les États-Unis et la Corée du Nord, c'est un affaiblissement de fait de l'influence politique et de l'alliance entre Washington et Séoul. Et puis troisièmement, il y a un problème sociologique. Le problème date de 70 ans. La République populaire et démocratique de Corée, c'est le seul pays qui n'a jamais eu de relations diplomatiques avec les États-Unis. En Iran, vous aviez des relations au moins dans les années 50 et 60. Mais vous avez un manque total d'échanges, de négociations entre généralement les Nord-Coréens et les États-Unis. Et la Corée du Nord reste aux États-Unis considérée comme un problème insoluble et comme, entre guillemets, un grand ennemi. Alors c'est en train de changer un tout petit peu puisque Donald Trump fait des concessions importante. Mais là, vous avez un vrai problème de fond en termes de négociation entre les deux pays.
Françoise Nicolas, oui.
Peut-être un dernier petit point, effectivement. Je pense qu'Antoine a parfaitement raison de souligner le côté un peu paradoxal du fait que la Corée du Nord a gagné en développant ses capacités technologiques nucléaires. Elle a gagné aussi l'accès à enfin pouvoir se retourner vers le développement économique. Ils avaient cette stratégie duale. En principe, ils faisaient les deux en même temps. Ils n'y arrivaient pas. Et en réalité, en affirmant que leur capacité technologique nucléaire était bien développée, ils peuvent enfin se consacrer à l'économie. Et ça, on a effectivement assez mal vu ou perçu ce point-là.
Et puis les sanctions internationales, il faut être extrêmement clair, ne sont pas réellement mises en œuvre. Et le rôle de la Chine, là, est vraiment extrêmement important. À Pyongyang, vous n'avez jamais eu autant de trafic automobile. Vous avez même désormais des taxis. Or, officiellement, vous avez des sanctions extrêmement dures sur les importations nord-coréennes de pétrole. Ces sanctions ne sont tout simplement pas mises en œuvre.
Et les États-Unis accusent Pékin de jouer double jeu.
Exactement.
Serge Sure.
Oui, je crois qu'il faut rappeler tout de même que la nucléarisation de la péninsule coréenne, ça a d'abord été le fait des États-Unis. Et que ça n'était pas prévu par l'armistice.
De 1953.
Oui, au contraire, même, il semble que des assurances avaient été données qu'il n'y aurait pas d'armes nucléaires américaines dans la péninsule. Or, il y en a eu, à partir de 1956. Et donc, voilà qui peut donner un argument à la Corée du Nord. Maintenant, sur son développement économique, il ne faut pas confondre Pyongyang et le reste de la Corée. Parce que Pyongyang est une vitrine. Et il y a là tous les bénéficiaires du régime, tous ceux qui appartiennent à la catégorie dirigeante et qui sont très bien traités. Mais la Corée du Nord, dans son ensemble et dans les campagnes, reste misérable.
Non, mais précisément, malgré tout, le régime sait que ça peut pas durer comme ça et qu'il va falloir passer à autre chose. Et c'est pour ça que la nécessité de développement économique, elle existe vraiment. Et là, maintenant, ils vont pouvoir se consacrer à ça, puisque la question nucléaire est un petit peu laissée de côté, en tout cas à leurs yeux. Non, bien sûr, le développement économique n'est pas là. Mais bon, ils ont laissé se développer des marchés. Les marchés, ils existent. Hein. Donc on n'est plus non plus dans la situation qui était celle qui existait sous Kim Jong-il.
Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Françoise Nicolas, chercheur à l'IFRI. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et Serge Sure, rédacteur en chef de Questions internationales. On peut retrouver vos contributions respectives dans le dernier numéro de la revue intitulé « La Chine au cœur de la Nouvelle-Asie ». Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Tania Tsikounas qui m'ont aidé à la préparer. À demain pour une géopolitique consacrée à l'Algérie avant la présidentielle de 2020.